Lettre à Louise Collet, 15 avril 1853. Le travail remarche un peu. Me voilà à la fin revenu du dérangement que m'a causé mon petit voyage à Paris. Ma vie est si plate qu'un grain de sable la trouble. Il faut que je sois dans une immobilité complète d'existence pour pouvoir écrire. Je pense mieux couché sur le dos et les yeux fermés. Le moindre bruit se répète en moi avec des échos prolongés qui sont longtemps avant de mourir. Et plus je vais, plus cette infirmité se développe. Quelque chose de plus en plus s'épaissit en moi qui a peine à couler. Quand mon roman sera fini, dans un an, je t'apporterai mon manuscrit complet par curiosité. Tu verras par quelle mécanique compliquée j'arrive à faire une phrase. Lettre à Louise Collet, 9 octobre 1852. Voilà 2 ou 3 jours que ça va bien. Je suis à faire une conversation d'un jeune homme et d'une jeune dame sur la littérature, la mer, les montagnes, la musique, tous les sujets poétiques, enfin. On pourrait la prendre au sérieux et elle est d'une grande intention de grotesque. Ce sera, je crois, la première fois que l'on verra un livre qui se moque de sa jeune première et de son jeune premier. L'ironie n'enlève rien au pathétique. Elle l'outre au contraire. Dans ma troisième partie, qui sera pleine de choses farces, je veux qu'on pleure. Madame Bovary, deuxième partie, chapitre 1.
Avez-vous du moins quelques promenades dans les environs ? Continuait Madame Bovary, parlant au jeune homme. « Oh, fort peu, répondit-il. Il y a un endroit que l'on nomme la pâture, sur le haut de la côte, à la lisière de la forêt. Quelquefois, le dimanche, je vais là et j'y reste avec un livre à regarder le soleil couchant. Je ne trouve rien d'admirable comme les soleils couchants, reprit-elle, mais au bord de la mer surtout. Oh, j'adore la mer, dit Monsieur Léon. Et puis, « ne vous semble-t-il pas, répliqua Madame Bovary, que l'esprit vogue plus librement sur cette étendue sans limite dont la contemplation vous élève l'âme et donne des idées d'infini, d'idéal ?»« Il en est de même des paysages de montagne, reprit Léon. J'ai un cousin qui a voyagé en Suisse l'année dernière et qui me disait qu'on ne peut se figurer la poésie des lacs, le charme des cascades, l'effet gigantesque des glaciers. » On voit des pins d'une grandeur incroyable en travers des torrents, des cabanes suspendues sur des précipices, et à 1000 pieds sous vous, des vallées entières quand les nuages s'entr'ouvrent. Ces spectacles doivent enthousiasmer, disposer à la prière, à l'extase. Aussi, je ne m'étonne plus de ce musicien célèbre qui, pour exciter mieux son imagination, avait coutume d'aller jouer du piano devant quelques sites imposants. « Vous faites de la musique ?» demanda-t-elle. « Non, mais je l'aime beaucoup, » répondit-il. « Ah, ne l'écoutez pas, Madame Bovary, » interrompit Homais en se penchant sur son assiette. « C'est modestie pure. Comment, mon cher ? Eh, l'autre jour, dans votre chambre, vous chantiez l'ange gardien à ravir. Je vous entendais du laboratoire. Vous détachiez cela comme un acteur. » Léon, en effet, logeait chez le pharmacien, où il avait une petite pièce au second étage sur la place. Il rougit à ce compliment de son propriétaire, qui déjà s'était tourné vers le médecin et lui énumérait les uns après les autres les principaux habitants d'Yonville. Il racontait des anecdotes, donnait des renseignements. On ne savait pas au juste la fortune du notaire. Il y avait la maison Tuvache, qui faisait beaucoup d'embarras. Emma reprit. Et quelle musique préférez-vous ? Oh, la musique allemande, celle qui porte à rêver. Connaissez-vous les Italiens ? Pas encore, mais je les verrai l'année prochaine, quand j'irai habiter Paris, pour finir mon droit.
Thank you.
Lettre à Louise Collet, 23 décembre 1853. Il faut t'aimer pour t'écrire ce soir, car je suis épuisée. J'ai un casque de fer sur le crâne. Depuis 2 heures de l'après-midi, sauf 25 minutes à peu près pour dîner, j'écris de la Bovary. Je suis à leur baisade, en plein, au milieu. On sue et on a la gorge serrée. Voilà une des rares journées de ma vie que j'ai passée dans l'illusion, complètement, et depuis un bout jusqu'à l'autre. Tantôt, à 6 heures, au moment où j'écrivais le mot « attaque de nerfs », j'étais si emportée, je gueulais si fort et sentais si profondément ce que ma petite femme éprouvait que j'ai eu peur moi-même d'en avoir une. Je me suis levée de ma table et j'ai ouvert la fenêtre pour me calmer. La tête me tournait. J'ai à présent de grandes douleurs dans les genoux, dans le dos et à la tête. Je suis comme un homme qui a trop foutu, pardon de l'expression, c'est-à-dire en une sorte de lassitude pleine d'enivrement. Et puisque je suis dans l'amour, il est bien juste que je ne m'endorme pas sans t'envoyer une caresse, un baiser et toutes les pensées qui me restent. Cela sera-t-il bon ? Je n'en sais rien. Je me hâte un peu pour montrer à Bouillet un ensemble quand il va venir. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça marche vivement depuis une huitaine, que cela continue, car je suis fatiguée de mes lenteurs. Mais je redoute le réveil, les désillusions des pages recopiées. N'importe, bien ou mal, c'est une délicieuse chose que d'écrire, que de ne plus être soi, mais de circuler dans toute la création dont on parle. Madame Bovary, deuxième partie, chapitre 9.
Et il allongeait son bras et lui en entourait la taille. Elle tâchait de se dégager, mollement. Il la soutenait ainsi, en marchant, mais ils entendirent les deux chevaux qui broutaient le feuillage. « Oh, encore !» dit Rodolphe, « ne partons pas, restez !» Il l'entraîna plus loin, autour d'un petit étang, où des lentilles d'eau faisaient une verdure sur les ondes. Des nénuphars flétris se tenaient immobiles entre les joncs. Au bruit de leurs pas dans l'herbe, des grenouilles sautaient pour se cacher. « j'ai tort, disait-elle, je suis folle de vous entendre. Pourquoi ? Emma, Emma, oh Rodolphe !» fit lentement la jeune femme en se penchant sur son épaule. Le drap de sa robe s'accrochait au velours de l'habit. Elle renversa son cou blanc qui se gonflait d'un soupir et défaillante, tout en pleurs, avec un long frémissement et se cachant la figure, elle s'abandonna. Les ombres du soir descendaient. Le soleil horizontal, passant entre les branches, lui éblouissait les yeux. Ça et là, tout autour d'elle, dans les feuilles ou par terre, des taches lumineuses tremblaient, comme si des colibris, en volant, eussent éparpillé leurs plumes. Le silence était partout. Quelque chose de doux semblait sortir des arbres. Elle sentait son cœur, dont les battements recommençaient, et le sang circulait dans sa chair, comme un fleuve de lait. Alors, elle entendit tout au loin, au-delà du bois sur les autres collines, un cri vague et prolongé, une voix qui se traînait, et elle l'écoutait silencieusement, se mêlant comme une musique aux dernières vibrations de ses nerfs émus. Rodolphe, le cigare aux dents, raccommodait avec son canif une des deux brides cassées.
Thank you.
Lettre à Louis Bouillet, 23 mai 1855. Ô homme, je chante les lieux qui furent le théâtre aimé des jeux de ton enfance, c'est-à-dire les cafés, estaminets, bouchons et bordels qui émaillent le bas de la rue des Charrettes. Je suis en plein Rouen. Et je viens même de quitter pour t'écrire les lupanars à grilles, les arbustes verts, l'odeur de l'absinthe, du cigare et des huîtres, etc. Le mot est lâché, Babylone y est. Tant pis. Tout cela, je crois, frise bougrement le ridicule. C'est trop fort. Enfin, tu verras. Rassure-toi d'ailleurs, je me prive de métaphores, je jeûne de comparaisons et dégueule fort peu de psychologie.
Madame Bovary, troisième partie, chapitre 5. La ville alors s'éveillait. Des commis, en bonnet grec, frottaient la devanture des boutiques et des femmes qui tenaient des paniers sur la hanche poussaient par intervalles un cri sonore au coin des rues. Elles marchaient, les yeux à terre, frôlant les murs et souriant de plaisir sous son voile noir baissé. Par peur d'être vue, elle ne prenait pas ordinairement le chemin le plus court. Elle s'engouffrait dans les ruelles sombres et elle arrivait, tout en sueur, vers le bas de la rue Nationale, près de la fontaine qui est là. C'est le quartier du théâtre, des estaminets et des filles. Souvent, une charrette passait près d'elle, portant quelques décors qui tremblaient. Des garçons en tablier versaient du sable sur les dalles, entre des arbustes verts. On sentait l'absinthe, le cigare et les huîtres. Elle tournait une rue. Elle le reconnaissait à sa chevelure frisée qui s'échappait de son chapeau. Suite de la lettre à Louis Bouillet.
Il m'est venu ce soir un remords. Il faut à toute force que les cheminots trouvent leur place dans la Bovary. Mon livre serait incomplet sans les 10 turbans alimentaires, puisque j'ai la prétention de peindre Rouen. C'est bien là le cas de dire, d'un pinceau délicat l'artifice agréable, du plus hideux objet, etc. Je m'arrangerai pour qu'Homais raffole de cheminots. Ce sera un des motifs secrets de son voyage à Rouen, et d'ailleurs, sa seule faiblesse humaine. Il s'en foutra une bosse chez un ami de la rue Saint-Gervais. N'aie pas peur. Ils seront de la rue Massacre et on les fera cuire dans un poêle dont on ouvrira la porte avec une règle. Je vais lentement, très lentement même. Mais cette semaine, je me suis amusée à cause du fond. Il faut qu'au mois de juillet, j'en sois à peu près au commencement de la fin, c'est-à-dire au dégoût de ma jeune femme pour son petit monsieur.
Thank you.
Madame Bovary, troisième partie, chapitre 7.
Tout en elle-même et au dehors l'abandonnait. Elle se sentait perdue, roulant au hasard dans des abîmes indéfinissables. Et ce fut presque avec joie qu'elle aperçut, en arrivant à la Croix-Rouge, ce bon Homais qui regardait chargé sur l'hirondelle une grande boîte pleine de provisions pharmaceutiques. Il tenait à sa main, dans un foulard, 6 cheminots pour son épouse. Madame Homais aimait beaucoup ces petits pains lourds, en forme de turban, que l'on mange dans le carême avec du beurre salé. Dernier échantillon des nourritures gothiques qui remontent peut-être au siècle des croisades et dont les robustes normands s'emplissaient autrefois, croyant voir sur la table, à la lueur des torches jaunes, entre les brocs d'Hippocras et les gigantesques charcuteries, des têtes de sarrasins à dévorer. La femme de l'apothicaire les croquait comme eux, héroïquement, malgré sa détestable dentition. Aussi, toutes les fois que M. Homais faisait un voyage à la ville, il ne manquait pas de lui en rapporter qu'il prenait toujours chez le grand faiseur rue Massacre. Charmé de vous voir, dit-il en offrant la main à Emma pour l'aider à monter dans l'hirondelle. Puis, il suspendit les cheminots aux lanières du filet et resta, nu-tête et les bras croisés, dans une attitude pensive et napoléonienne.